Bonjour, je m'appelle Stéphane Natkin. Je suis une antiquité dans le domaine du jeu vidéo. Puisque, en fait, Legimin a été créé en 2001. Et puis avant, je m'étais occupé de différents types de formations, dont des formations arts et technologies. Je suis professeur au Conservatoire national des arts et métiers, qui est aussi une antiquité dans le domaine des institutions de formation, comme son nom l'indique d'ailleurs. Et donc, ben, Legimin, ça fait plein de choses. Ça fait surtout un master que vous connaissez sans doute, certains d'entre vous connaissent, ou ils sont peut-être même en ce moment élèves. Puis on a un master avec les Gobelins, on a une équipe de recherche, enfin bon, un certain nombre de choses, et donc tout tombe autour du jeu vidéo. Alors en fait, la présentation que je vais vous faire, c'est une présentation qui est extraite d'un cours qui tourne autour de l'histoire du jeu vidéo. Et donc j'ai pris la partie qui s'étendait, ben, disons, de la période 2005 jusqu'à ben, demain, pour essayer de donner un peu mon point de vue sur cette histoire-là. Alors, déjà donc la façon dont je présente ça, c'est une façon qui est inspirée de présentation que faisait quelqu'un qui est aussi un ancien du jeu vidéo, qui s'appelle Alain Le Diverdère, qui est maintenant un des dirigeants d'Arte et qui a été à Canal+, le créateur d'une première émission sur le jeu vidéo, surtout qui a écrit un des premiers bouquins en français sur le sujet. Et au début de Legimin, il faisait des cours d'histoire du jeu vidéo et ces cours d'histoire étaient intéressants parce qu'ils sont beaucoup moins anecdotiques que la plupart des cours qu'on trouve. Ils essayent d'expliquer, disons, cette évolution. Alors cette évolution, elle est basée, c'est un média qui est encore très technologique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, le jeu vidéo intègre une technologie. En général, ce n'est pas tellement une technologie qui sort du jeu vidéo, il y en a, mais souvent c'est une technologie qui existe ailleurs et qui est intégrée. Et cette technologie permet de créer de nouveaux types de contenus. J'ai marqué une augmentation de la complexité, mais ce n'est pas forcément vrai. Ça peut être le contraire, par exemple. Le développement des jeux sur mobile ont repermis de travailler sur des petites équipes sur le jeu. Et chaque fois, ça change la nature du processus de production des jeux. Et donc, on trouve de nouvelles structures. Et alors, j'ai repris mon histoire. Il y a toute une série. Alors, le point de vue de Le Diverdère, c'est que c'est une histoire cyclique. Je pense que la plupart des gens sont assez d'accord sur cette idée-là. Cette histoire est liée au fait qu'à un moment donné, il y a une nouvelle technologie qui est intégrée, provoquant l'apparition d'un nouveau type de contenu, une croissance rapide du point de vue économique, et puis à un moment donné, tout ça s'écroule pour diverses raisons. Il y a des raisons les plus connues, sont ce qu'on appelle le cycle des consoles, qui tend à être moins marqué qu'il l'était il y a 10 ou 15 ans, c'est-à-dire l'apparition d'une nouvelle génération de consoles qui arrête les achats sur la génération précédente, alors que les nouveaux contenus sont pas encore développés, mais on a trouvé aussi des catastrophes économiques comme la disparition de la nouvelle économie, etc. Et cette histoire commence dans les années 60, et je vais passer tout le début de l'histoire pour arriver à l'année 2005-2012. Alors, je vais faire un petit arrêt sur l'histoire de Legimin. Legimin a été créé en 2001, juste au moment où on a eu l'éclatement de la bulle dite de la nouvelle économie, qui a eu un effet tout à fait catastrophique sur les studios de jeux vidéo français. Et donc, quand les premiers professionnels sont venus à enseigner à Legimin, le discours était assez simple: faites tout sauf du jeu vidéo. Et si vous faites du jeu vidéo, il n'y a qu'une façon de faire du jeu vidéo, c'est faire du first person shooter pour des adolescents de l'ordre de 17 ans. C'est ça qui rapporte de l'argent, sinon le reste ne rapporte absolument rien. Et puis, ben, ça a commencé comme ça. Et puis, en 2005, les choses changent grâce à un des principaux acteurs de ce domaine-là, qui est Nintendo. Nintendo est un acteur tout à fait remarquable parce qu'il a chaque fois une espèce d'intuition de la façon dont il fallait anticiper l'avenir du jeu. Et il a créé des modèles. Ce qu'on appelle le modèle de la console a été créé beaucoup plus tôt par Nintendo. Et Nintendo s'appuie sur une époque où on commence à réfléchir sur le développement des interfaces. Donc les technologies qui jouent sur ce cycle, eh bien, c'est les technologies des nouvelles interfaces. On voit ici les premiers systèmes qui permettaient de faire de l'interaction sans manette, l'écran considéré comme une fenêtre entre le monde réel et le monde virtuel, une machine à draguer japonaise qui permettait de trouver les gens étant dans un état complémentaire d'un voisinage, et tout ça reposant sur le développement des réseaux sans fil à cette époque-là. Et à partir de ça, Nintendo va inventer une machine absolument extraordinaire qui s'appelle la DS. Et la DS, j'étais à la Game Developer Conference quand elle a été lancée, et la DS, eh bien, personne ne pensait que ça serait un succès. En fait, il y avait le modèle de chez Sony qui était beaucoup plus technologique et tout ça sortait au même moment. Et on a dit que c'était la fin de Nintendo. Un an après, tout le monde voulait faire des jeux sur la DS et sortait presque en même temps la Wii. Alors en fait, ce qui était tout à fait étonnant, c'était la façon dont Nintendo a envisagé de créer des jeux pour de nouveaux marchés de joueurs, ce qu'on appelle maintenant les casual gamers. Et tout était pensé en fonction de ça. J'ai fait un cours à l'Engmin où j'explique comment est-ce qu'il a créé la Wiimote, comment créer une interface pour un public qui n'est pas le public habituel du jeu vidéo, et tout était pensé à partir de ce public. Et ça a eu un effet absolument incroyable sur le monde du jeu vidéo. D'abord, on a vu arriver des professionnels à l'école qui disaient à mes élèves, bah, écoutez, il paraît qu'il faut faire maintenant des jeux pour les petites filles ou pour les grands-pères. Ça, on ne sait pas faire, mais comme vous êtes jeunes, vous avez peut-être des idées originales à nous apporter. Donc ça, c'était déjà un changement. Le deuxième effet, c'est que le monde du jeu vidéo a commencé à prendre au sérieux ce qu'on appelait les indés. Les indés, c'est les gens qui font du jeu sans s'appuyer sur les gros éditeurs. Et les indés qui existaient déjà, hein, il y avait un marché indépendant, il y avait des concours des indépendants, personne ne s'y intéressait sauf les indépendants eux-mêmes. Et à partir de ce moment-là, ben, toutes les grandes compagnies ont été dans les présentations des indépendants, parce que c'est effectivement là où on pouvait penser trouver de nouvelles idées. Et donc ça a radicalement changé le point de vue de l'ensemble de ce monde-là. À peu près à la même époque, on a commencé à voir le développement des jeux sur mobile. Le développement des jeux sur mobile a commencé surtout en Asie, parce que au Japon, on avait inventé l'App Store avant Apple. Ça s'appelait Docomo, c'est-à-dire une plateforme unique qui permet d'avoir tous les jeux et puis d'échanger un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas faire jusque-là. Le marché des jeux sur mobile est en très rapide croissance. Je pense qu'un des éléments qui manque encore pas mal, c'est de faire des jeux qui se servent des fonctions de communication du mobile. Le mobile, c'est fait pour téléphoner ou s'envoyer des SMS. Et il n'y a pas encore beaucoup de jeux multijoueurs utilisant toutes les fonctions. C'est en train de venir, géolocalisation et tout ce qu'on peut faire avec un jeu. Et puis aussi, sur la même époque, apparaissent les plateformes de distribution en ligne, c'est-à-dire la dématérialisation des contenus, qui est maintenant, je ne dirais pas achevée, mais disons que je crois qu'il y a moins du tiers maintenant des ventes de jeux vidéo qui se font sous forme matérialisée. Et ça, c'est un changement profond qu'on avait vu venir avant l'an 2000, aussi bien à travers la distribution que sur les jeux en ligne, donc aussi bien le téléchargement que les jeux en ligne, mais dont on n'avait pas mesuré la conséquence directe. Par exemple, pour expliquer comment on fait un jeu, parce que je n'avais pas le temps de faire ça, le modèle classique, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les studios qui font les jeux et les éditeurs qui, d'une part, les financent, d'autre part, s'occupe de faire l'édition et la distribution. À partir du moment, et c'était les éditeurs qui semblaient être les gros gagnants de cette opération-là. Et à partir du moment où on a vu la distribution en ligne, en fait, les studios ont dit c'est très bien, on va pouvoir se passer des éditeurs. Et ce qui s'est passé, ben, c'est qu'on s'est peut-être passé en partie des éditeurs, pas complètement. Les éditeurs continuent à jouer un rôle essentiel, mais surtout, il y a de nouveaux acteurs qui sont les entités qui font la distribution en ligne, qui sont devenues les gros gagnants de l'opération. Donc il y a tout un changement qui affecte l'ensemble de l'industrie. Pour prendre un exemple très simple, Je suis allé chez Electronic Arts à Vancouver, dans le studio où ils font les jeux de sport, comme FIFA. Les jeux de sport, c'est les jeux qui ont fait la fortune d'Electronic Arts. C'est une rente. Vous sortiez FIFA une année, vous changiez quatre joueurs, deux clubs et un peu de technologie, vous ressortiez FIFA l'année d'après, et tous les gens qui avaient acheté ceux de l'année précédente achetaient ceux de l'année suivante. Excusez-moi. Et puis à un moment donné, à partir du moment où il y a commencé à avoir la distribution en ligne, les clubs de joueurs et tout ça, eh bien les clients ont dit bah non, on va pas attendre un an. Il faut que vous ayez une espèce d'action continue sur les jeux. Et donc on est passé d'un modèle de produit, de vente de produits qui était récurrente mais qui était un produit, à un service. Et donc Electronic Arts a dû développer tout un environnement pour répondre aux gens et pourquoi tel joueur et pas, et introduire des éléments au fur et à mesure dans l'année. Et donc, vous voyez, ça a profondément changé. J'ai pris cet exemple parce que c'est un basculement qui a changé d'ailleurs toute l'économie d'Electronic Arts. On a vu apparaître les jeux sur les réseaux sociaux qui touchaient une nouvelle population que je n'ai pas encore complètement compris. Je n'ai pas encore compris comment ça se fait que quelqu'un qui, à cette époque-là, dirigeait une entreprise et communiquait peu sur son entreprise, sur Facebook, passait son temps à expliquer combien de lapins il avait produit et vendu sur son jeu vidéo. Mais enfin, c'est aussi une évolution très nette, le retour à des jeux asynchrones où les échanges ne sont pas des échanges rapides comme les jeux massivement en ligne. Alors, si on arrive à maintenant, ça commence en 2012 maintenant. Alors, on arrive au moment qui pour moi justifie l'existence de l'Engmin. J'ai écrit un bouquin un peu après la création de l'Engmin en expliquant que ce qui justifie de faire une école nationale des jeux, ça n'est certainement pas le marché de l'emploi direct du jeu vidéo, qui représente, quand le vent souffle dans la bonne direction, entre 5 et 6 000 emplois. Si on parle des gens qui produisent des jeux, pas les gens qui les commercialisent. Mais au total, ça doit faire à peu près tout ça en France, hein. Et même si vous regardez d'ailleurs le marché mondial, c'est un marché, j'avais fait il y a très longtemps une étude sur le nombre de gens qui travaillaient à la création de jeux vidéo, c'est une industrie qui est toute petite comparée, par exemple, à l'industrie automobile en termes de nombre d'emplois. Par contre, ce qui est déterminant, c'est que ce qu'on fait dans le jeu vidéo est en train de rentrer dans toutes les activités et dans toute la communication que nous avons. Et ça, vous ne pouvez pas laisser passer le marché de la communication, vous ne pouvez pas laisser passer le marché de la télévision, du cinéma de demain, de la communication politique, de la communication économique. Et si vous n'avez pas des gens qui savent comment est-ce qu'on traite l'interactivité, comment est-ce qu'on crée une forme de relation très particulière comme celle qu'il y a dans les jeux entre quelqu'un, une machine ou une communauté qui communique à travers un univers virtuel? Eh bien, ce sont d'autres qui vous expliqueront comment on communique et comment on se sert de cette communication pour acquérir l'information. Alors, à un moment donné, j'avais tendance à dire, ben, les jeux vidéo vont disparaître parce qu'ils seront partout. C'est une boutade, mais enfin, c'est quand même un peu vrai. Alors j'ai avancé dans mes slides, je ne sais pas si vous avez avancé de votre côté. Ah oui, vous êtes bien au-delà de moi. Moi, je suis à un endroit où ça s'appelle Je serai. Voilà. Donc je serai, c'est des exemples de choses qui sont faites au labo. Je serai, c'est un jeu vidéo pour faire de l'orientation professionnelle. C'était l'objet d'une thèse qui a été réalisée par Emmanuel Gardiola. En fait, on est parti d'un modèle psychologique qui sert classiquement à faire de l'orientation professionnelle et que l'on complète en faisant une enquête auprès des gens, en leur demandant le dimanche, est-ce que vous jouez au foot ou est-ce que vous regardez la télé en mangeant des loukoums, etc. Et à partir de ça, on coche un tas de petites cases et ça donne un positionnement psychologique de la personne qu'on interviewe. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire un jeu où en regardant la façon dont le joueur prend des décisions, eh bien, on peut acquérir les mêmes informations. Ce n'est pas un QCM, hein, c'est un vrai jeu. On doit, un peu comme, comment ça s'appelle? Ça va me revenir. C'est un jeu avec des petits personnages. Les petits personnages doivent prendre des décisions. On peut aller voir ce que font les autres personnages, et la façon dont on prend ses décisions et dont on sert les résultats sert à faire l'évaluation. C'est ce qu'on appelle les serious games, terme qui traduit bien l'immaturité de ce secteur, puisque j'ai jamais entendu parler de serious book, de serious film, et pourtant il y a des livres qui servent à apprendre des choses, etc. Ça, c'est un autre exemple de quelque chose qui est très à la mode, et d'ailleurs, il y aura à Fabrique, j'ai vu, un atelier là-dessus. C'était un projet qu'on avait en 2009, qui est ce qu'on appelle les jeux dans les musées, et donc toute la déclinaison qui en est faite actuellement autour du tourisme culturel avec l'utilisation des mobiles, de la géolocalisation, de la réalité augmentée, etc. Ça, c'est un jeu thérapeutique, je n'ai pas le temps de m'attendre, mais c'est un jeu qui permet de pré-traitement de la maladie d'Alzheimer, de la partie attention, et c'est un first-person shooter pour papy. Mais comme il paraît que les papys, à partir d'un certain âge, n'ont plus le droit de tirer sur des monstres sanglants, en fait, on photographie des petits oiseaux dans un village en province. Et enfin, globalement, c'est un jeu thérapeutique. Et ça, c'est un jeu politique. Je ne peux pas vous passer la vidéo, ça serait trop compliqué. Il y a toute une génération de jeux politiques, de jeux de communication de façon plus générale. Ça, c'est un jeu qui avait été développé à l'Engmin et qui dénonçait les camps de rétention administrative. Je continue. Je suis sur un site qui s'appelle Les Bons Serious Games. Je devrais faire attention de vous prévenir quand je change de site. Qu'est-ce que c'est que ces jeux-là? Bah, c'est des jeux utiles. Hein. Si vous prenez n'importe quelle définition du jeu, une des caractéristiques, c'est de ne pas être utile en soi, c'est-à-dire de ne pas avoir été conçu pour une utilité, même si ça en a une, et de ne pas avoir comme objectif principal une utilité quelconque. Or, tous les jeux qu'on a, c'est des jeux, mais c'est des jeux qui servent à faire quelque chose qui est explicitement défini. Je passe un peu là-dessus, et je passe au stade qui s'appelle le transmédia et la fiction totale, parce que j'ai dit que je tiendrai en 20 minutes, et je me rapproche de la fin. Donc, qu'est-ce que c'est que le transmédia et la fiction totale? Alors, pour reprendre le point de vue de Le Diverdère, quelles sont les technologies qu'il sous-tend? Ben, c'est l'ensemble de l'évolution de la communication Internet, hein, qui est marqué le web, je ne sais pas à combien de points zéro, la technologie des interfaces, les objets intelligents, les systèmes tangibles, les espaces intelligents, la ville, la maison intelligente, ce qu'on appelle l'informatique ubiquitaire, c'est-à-dire, c'est en fait le terme anglais ubiquitous, c'est-à-dire le système informatique qui est omniprésent et qui répond contextuellement à ce que vous cherchez et dont la réalité augmentée est un des aspects, la réalité virtuelle s'approchant. Disons quelque chose, je reviendrai là-dessus. Et puis, ce qui est un élément essentiel dans l'intelligence artificielle dans les jeux, c'est le modèle du visiteur et l'adaptation. C'est l'idée, un jeu c'est toujours conçu en ayant une idée du joueur. Hein. La mécanique de conception d'un jeu et la façon dont on apprend à faire un jeu, c'est on met dans la tête de celui qui fait le jeu une idée de la personne qui va jouer, il se dit, mais quand ils vont faire ça, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Est-ce qu'il va continuer à jouer? Pourquoi? Quelles sont ses motivations? Etc. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, on va mettre un modèle formel dans le jeu, et ce modèle va apprendre qui est le joueur, et va s'adapter progressivement à cette connaissance. Alors, bon, je décline un peu l'informatique ubiquitaire, je viens d'en parler. Les objets intelligents, je fais une slide sur lequel il y a un lapin rose. Voilà, le lapin Navastak, qui est un des objets intelligents les plus rigolos qu'on ait fait dans ces années. Et puis, donc, ce qui est l'expression d'une interface tangible, mais aussi du fait que nos objets du quotidien peuvent être détournés pour faire des jeux. Le matériel urbain pour les jeux ubiquitaires, un espace intelligent, etc. Donc ça, c'est une image de la maison intelligente. J'ai pas trop le temps de décliner ça. Et puis, donc, les machins à la mode, je reviendrai sur la mode dans les jeux à la fin, qui sont la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La réalité virtuelle étant le fait d'immerger le joueur dans un monde virtuel, la réalité augmentée étant d'apporter des éléments qui viennent se contextualiser, qui sont contextualisés dans une perception réelle. À l'heure actuelle, des systèmes de dans les systèmes de réalité virtuelle ont connu un grand succès, se sont généralisés. Je ne suis pas du tout certain que ce soit un grand marché pour le jeu vidéo. Ça le sera pour un tas d'autres choses. Mais pour le jeu vidéo, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'obstacles. Et la réalité augmentée, ben, on attend d'avoir des dispositifs qui soient vraiment pratiques. Parce que par exemple, se promener avec un musée, dans un musée avec des haut-parleurs fermés et en trimballant au-dessus de soi sa tablette, c'est à mon avis voué à l'échec. Au bout de 5 minutes, les gens ont envie de discuter avec leurs voisins et ont une crampe aux muscles à trimballer la tablette. Donc, il faudra attendre d'avoir des dispositifs un peu plus adaptés. Et ça va venir, en particulier la réalité augmentée sonore, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait un son qui se superpose au son de l'environnement, et probablement dans un premier temps, avant qu'on ait des lunettes vraiment efficaces, des systèmes très intéressants. Et ceci a abouti, toutes ces technologies, j'ai dû passer trop vite sur toutes les technologies de géolocalisation qui sont très importantes, à tout un type de jeu. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un jeu ubiquitaire, c'est un jeu qui se joue dans la ville. On en a vu maintenant depuis quelques années, quelques-uns qui sont vraiment des jeux et dans lesquels vous jouez collectivement, vous devez trouver des adversaires, un lieu, quelque chose à faire, et donc c'est dans l'espace réel. Et donc cette recontextualisation spatiale du jeu, elle est à la fois intéressante pour le joueur, elle est aussi d'un point de vue économique intéressant, puisque ça dépend d'une ville, ça dépend d'un endroit. Vous amenez les gens à parcourir cet espace. Et donc ça, c'est un jeu qui est déjà assez ancien, qui s'appelle Boat Fighter et qui a été expérimenté en Chine. Des jeux très proches de ça sont les jeux dits transmédia. Donc un des plus anciens, en tout cas en France, aux États-Unis, ça n'avait existé que 2 ans avant. S'appelle Inmémoriable, a été conçu par Eric Viennot, je suis sur le slide Inmémoriam. Et en fait, c'est un jeu qui se sert de l'ensemble de l'environnement que nous utilisons dans notre vie quotidienne, dans notre travail, comme interface de jeu. C'est-à-dire, dans Inmémoriam, vous lanciez un CD, on vous expliquait qu'il y avait des journalistes qui avaient disparu, qu'il fallait les retrouver, et vous lanciez dans une enquête. Pour résoudre l'enquête, vous commenciez par chercher avec Google des informations, puis à un moment donné, vous tombiez sur des énigmes, et puis plus vous progressiez, plus les personnages du jeu rentraient en contact avec vous. Ils vous envoyaient des SMS au départ, et puis après, ils vous téléphonaient, ou ils vous envoyaient des mails, et vous étiez à travers votre interface avec le monde réel, en contact avec les personnages du jeu. Ce qui fait que le moment où vous jouez et le moment où vous ne jouez plus devient de plus en plus flou. Ces jeux s'appellent de façon plus générale les jeux en réalité alternée. Il y en a certains comme ceux de Viennot qui sont des jeux en soi. Il y en a d'autres qui sont liés à une structure commerciale. Par exemple, il y a le fameux jeu de The Beast qui a été créé par une équipe de Microsoft pour lancer le film Artificial Intelligence de Spielberg. Et il y a un jeu qui s'appelle I Love Bees qui a été utilisé par Microsoft lui-même pour lancer une des versions de la Xbox. Donc le transmédia, c'est quoi? C'est un contenu qui n'a sa cohérence que parce qu'il se décline sur plusieurs supports, qui a en général des sens narratives, qui gère une relation entre un monde réel et un monde virtuel, et par conséquent qui lie le temps et souvent l'espace du monde réel à celui du monde virtuel, l'économie du monde réel à l'économie du monde virtuel, etc. Et qui intègre souvent un rapport aux médias traditionnels, le cinéma, la presse, etc. Alors ça, j'ai pas le temps de développer, mais j'ai fait un jeu en réalité augmentée autour de la série Plus belle la vie. Et en fait, par exemple, c'est fait en l'occurrence pour maintenir, dans l'intérêt d'une période, de l'ensemble de la population qui regarde Plus belle la vie tous les soirs sur France 3. Alors, quand je raconte tout ça, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment nouveau? Alors en soi, c'est pas vraiment nouveau. Par exemple, j'ai mis sur cette pièce, il y a ça c'est une œuvre de la plasticienne Sophie Calle, qui raconte toujours une partie de sa vie, qui fait même participer les spectateurs aux parties de sa vie. On ne sait jamais si c'est la vie de la vraie vie ou une vie qu'elle s'invente. Et bon, ça a une relation directe à ce que j'ai raconté. Il y a ce qu'on appelle les rallyes, qui étaient très à la mode du temps où j'étais jeune, il y a longtemps, mais c'était des énigmes dans la ville. Il y a évidemment les performeurs qui sont dans cet univers-là, et plutôt dans le nord de l'Europe, les gens qui font du jeu de rôle dans la vie réelle. Donc il y avait déjà tout un tas d'éléments, et je pense que les gens qui ont les premiers pensé réellement à ça, c'est les enfants qui jouent dans un bois aux cow-boys et aux Indiens. Eh bien, ils font un jeu qui utilise tous les éléments de la vie réelle pour créer une fiction. Et puis, ben, il y a Orson Welles qui a fait ça il y a très longtemps, en faisant arriver les Martiens au milieu des États-Unis et en créant une panique dans la fameuse émission La Guerre des Mondes de 1937, si je ne m'abuse. Donc, pour terminer ma présentation, quand on regarde cette influence du jeu vidéo, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que quand vous regardez un certain nombre de choses qu'ont porté la technologie, un des premiers usages ont été trouvés dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo est rarement un inventeur de nouvelles technologies, mais c'est souvent un inventeur de nouveaux usages. L'exemple le plus célèbre, c'est le chat. Le chat, aux États-Unis, a commencé à être utilisé sur les jeux en ligne qui ont été créés au milieu des années 90. Alors en France, on était très en avance parce qu'on avait eu le Minitel Rose qui nous permettait de chatter bien avant les jeux massivement multijoueurs. Mais enfin, pour le reste du monde, ils ont découvert le chat bien avant les réseaux sociaux. Vraiment, on a fait les premiers jeux de rôle. Et donc, si on regarde tout ce qu'on trouve dans l'univers du jeu vidéo, tout ce que savent faire les gens du jeu vidéo, eh ben, on peut se poser des questions. Si on regarde en 2022, les gens qui ont, même peut-être un peu plus tard, qui ont entre 15 et 20 ans maintenant, est-ce qu'ils regarderont la télévision? Ben, la réponse est tout de suite non, parce qu'ils ne regardent plus la télévision. Ils regardent bien un et des écrans, mais ils ne regardent pas la télévision au sens de l'usage que moi j'en ai en regardant une chaîne, en changeant de temps en temps de chaîne. Ils ont quatre écrans allumés dans différents endroits, ils ont une relation aux écrans qui n'est pas du tout la même. Est-ce qu'ils regarderont les journaux en ligne? Certainement. Est-ce que ces journaux vont ressembler de moins en moins à un journal? On a passé l'époque où on tournait sur un iPad les pages comme les pages d'un journal. Eh bien, on va créer des journaux, des médias dont l'interactivité devient un élément essentiel. Est-ce qu'ils font de la politique en distribuant des tracts sur les marchés? Je pense que la distribution de tracts sur les marchés a encore un grand avenir, parce que c'est la seule façon de se réunir au bout d'un verre à la fin du marché entre tracteurs, mais on a vu aux dernières campagnes politiques le fait d'utiliser des mécaniques qui viennent, mécaniques virales, dont une partie viennent du jeu vidéo, deviendront un élément de plus en plus prépondérant. Est-ce que la meilleure forme de publicité consistera à payer plein d'argent pour un spot aux 20 h ou d'utiliser d'autres formes de communication? Ben, je pense que la réponse est en train de se faire, bien que les budgets n'aient pas encore vraiment basculé d'un univers vers l'autre, mais ça va venir plus ou moins rapidement. Les musées, on en parlera. Il y aura certainement encore des guides, parce que les guides sont pleins de charme et peuvent raconter plein de choses, mais il y aura certainement des systèmes de réalité augmentée qui participeront à la visite. Et je dirais que tant que c'est des choses qui viennent en surajout, comme on le fait maintenant, ça marchera jamais très bien. Quand ça fera partie de la façon dont on concevra un musée, ça marchera certainement beaucoup mieux. Est-ce qu'on pilotera notre maison, l'espace intelligent? Je vais faire une toute petite parenthèse sur les espaces intelligents. J'ai visité il y a longtemps deux maisons intelligentes, celle que France Télécom avait à Rennes et une qui était au Japon. Celle de France Télécom à Rennes, c'était comme à Dieu, on lui parlait en levant les bras et en disant: Ô maison, demain matin, réveille-moi à 8 h 30 et prépare-moi le café. Alors qu'au Japon, dans chaque pièce, il y avait un petit bonhomme en bois, un manga, un petit personnage manga, qui était le représentant de la maison, qui était directement tiré du jeu vidéo, et à qui on parlait. On lui disait: Ben écoute, j'aimerais bien que tu m'ouvres les fenêtres à 8 h 30. Et le truc absolument génial, c'est quand vous sortiez en courant le matin parce que vous étiez en retard, le petit personnage disait: Ah, monsieur Natkin, vous avez oublié vos lunettes et vos clés. Vos lunettes sont dans l'entrée et les clés sont sur la cheminée dans le salon. J'ai dit le jour où ça marche, j'achète tout de suite. Ça a sauvé ma vie. Et puis, probablement, il n'y aura plus grand monde pour vous faire un exposé dans le genre de celui que je viens de vous faire. C'est-à-dire un exposé où je vous raconte des trucs et vous ne pouvez pas intervenir en temps réel dessus. Je ne sais pas très bien comment faire ça pour que ça soit intelligent. Je sais comment faire ça pour que ça soit stupide. Il y a des post-it qui apparaissent dans tous les coins sur l'écran. Et puis, le présentateur qui n'est pas habitué passe son temps à voir quel post-it il fait. Mais enfin, par contre, ce qui est certain, c'est que la façon dont on va communiquer et toute la mécanique du savoir, eh bien, aura certainement changé. Et j'ai terminé ma présentation par ce nom à la question précédente.
Ouais. Ben, merci, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais donc prendre la suite une présentation qui va être, je pense, sur certains points complémentaires, même si l'approche, la perspective est pas la même, puisque donc je suis moi sociologue. Alors, j'ai pas la capacité de feedback de Stéphane sur l'industrie du jeu vidéo, mais quand même en y réfléchissant, en fait, j'ai commencé à travailler sur ce domaine au moment où il arrêtait le début de sa période, c'est-à-dire à peu près autour de 2005. Donc du coup, la perspective que j'ai peut être peut-être un peu aussi influencée par ça. Donc, ce que je vais vous présenter, en fait, la raison pour laquelle je suis là et je vais vous parler d'industrie du jeu vidéo, c'est que donc je travaille sur les pratiques et sur la conception de jeux vidéo depuis une dizaine d'années. Par ailleurs, donc j'ai repris un peu cette question en essayant de monter avec des collègues avec qui on a travaillé sur les pratiques. On a fait un gros projet sur les pratiques de jeu en France, une enquête qui s'appelle Ludespace, que vous pouvez trouver. Donc vous pouvez trouver la plupart des résultats en ligne. Les pratiques de jeu des Français, pas seulement des joueurs, mais des Français. Donc avec cette même équipe, on s'est dit que ce serait intéressant d'aller travailler et proposer une analyse symétrique, mais sur les mondes de production. Donc avec des collègues qui sont philosophes, géographes, économistes et sociologues. Donc j'avais préparé. Je suis en train de changer là, mais en fait c'est là. Aussi un petit retour historique, alors qui remonte un petit peu plus loin, qui est fait pour le coup vraiment à la hache, mais juste pour avoir un petit cadrage avec cette citation que j'aime beaucoup, qui est reprise dans pas mal de bouquins sur l'industrie du jeu vidéo. Donc, il y a une citation de Steve Russell à propos de Space War, dans les années 60, qui dit, bon, bah, au début, on s'est demandé pendant enfin, très peu de temps si on pouvait en tirer un peu d'argent, puis on s'est dit que non, c'était vraiment pas possible. Et donc, on a laissé tomber. Évidemment, on a des citations ensuite d'acteurs de l'industrie qui ne sont pas tellement plus tardives. Chris Crawford, notamment dans les années 80 en 87, il me semble, là c'est coupé, qui dit, ben voilà, on n'est plus aujourd'hui, on est une industrie, on est une véritable industrie, on n'est plus cette bande d'amateurs qui a commencé à travailler sur les jeux vidéo. On draine des milliers de dollars et on a plein de gens qui sont dépendants de nous. Donc ça m'amuse cette première image parce qu'en fait, comme le disait Stéphane, il y a des formes de mode, des formes de cycle. Et aujourd'hui, ce que dit Steve Russell, le monde dans lequel il évolue avec une informatique qui est faite d'amateurs, de gens qui travaillent dans leur garage, de bricoleurs, c'est un monde auquel finalement, quelque part, on revient en partie avec l'évolution de l'industrie actuelle. Donc l'évolution de l'industrie, Stéphane en a parlé. Donc je ne vais pas y revenir énormément. Je retiendrai, moi, peut-être quelques éléments sur les 10 à 20 dernières années. Il y a un certain nombre de changements qui sont arrivés. Alors moi, je ne serais pas entrée forcément par la question de la DS et du jeu casual, mais je serais entrée par Internet, en fait, par le numérique et par le réseau. C'est-à-dire qu'une des choses, et Stéphane l'a rappelé, qui change fondamentalement l'industrie ces dernières années, c'est le passage d'une industrie de produits, enfin qui va produire des jeux vidéo, un jeu vidéo comme produit, à un jeu vidéo comme service. Et ça passe au départ beaucoup par les jeux en ligne. Moi, j'ai travaillé sur les MMORPG et World of Warcraft. Donc World of Warcraft, c'est aussi 2005, donc c'est intéressant qu'on ait pris cette date-là, au moment où commencent à arriver les premiers studios, où dans ma thèse, j'étais sur un terrain dans une entreprise en France qui produisait un MMORPG, et on ne savait pas ce qu'était un community manager. On appelait ça community liaison assistante, d'ailleurs. Et donc, on était en train de découvrir ce type de fonction. Donc, c'est des choses qui vont énormément changer, comme l'a souligné Stéphane, il va y avoir des changements socio-techniques, donc qui sont liés à des façons d'utiliser les technologies. On ne va plus utiliser les technologies de la même manière, socio-économiques, puisque donc on va devoir revoir les modèles de production, on va devoir revoir les métiers, donc on va avoir aussi la recherche de nouveaux marchés. Ce qui est ce que moi j'appelle un petit peu le marché du jeu casual, la redécouverte des gens, c'est-à-dire que probablement il y avait déjà un certain nombre de gens qui jouaient à des jeux sur mobile, qui jouaient à des jeux, des petits jeux, mais l'industrie ne se préoccupait pas d'eux comme d'un marché. Donc ce qui a changé ces dernières années, c'est aussi le fait qu'on marchandise, qu'on monétise une pratique de jeu qui existait sans doute, mais qui n'était pas forcément monétisée. Donc ça, c'est des choses qui ont changé de manière importante d'un point de vue socio-économique, d'un point de vue socio-technique. L'évolution de la distribution, donc ça a été aussi souligné. Donc la dématérialisation, évidemment, va changer la donne de manière importante. L'importance des plateformes qui va être de plus en plus grande. Et le rapport, d'une certaine manière, plus direct entre les producteurs, enfin, censément plus direct, sauf qu'il passe par les plateformes, entre les producteurs et les joueurs, en tout cas en termes de, là aussi, retour direct des utilisateurs. Et du coup aussi, peut-être un brouillage des frontières plus important entre les professionnels et les joueurs. Donc il y a de nouveau des questions qui vont se poser, comme sont posées à la naissance du jeu vidéo, entre quelle est la différence entre être un joueur, parce que jouer c'est toujours créer, c'est toujours une activité créative, il y a toujours des joueurs qui ont envie de modifier le contenu des jeux, qui ont envie de modifier un petit peu leur fonctionnement, et être un professionnel du jeu vidéo. Et une chose qui va participer à cette évolution, ça va être précisément, et c'est pour ça que cette rencontre, discussion m'intéresse beaucoup, le développement aussi, la formalisation de savoir sur la production de jeux vidéo et sa diffusion. Donc, en particulier, l'apparition des écoles, mais pas seulement, le fait d'avoir des groupements, des collectifs de développeurs qui vont essayer de mettre en commun leurs connaissances, qui vont essayer d'établir un corpus de savoir, et donc la création d'écoles comme l'Engmin. En France, c'est particulier, peut-être qu'on y reviendra. Les écoles ne se sont pas créées de la même manière partout dans le monde. Et donc cette circulation des savoirs, cet accès aux connaissances, qui fait aussi que c'est peut-être plus simple aujourd'hui pour quelqu'un qui se dit « Tiens, j'aimerais bien voir qu'est-ce que c'est que créer un jeu vidéo », de trouver des ressources et de trouver aussi des outils. Donc du point de vue là plutôt technique, d'avoir des outils intermédiaires de création qui permettent à un certain nombre de gens de fabriquer quelque chose qui ressemble en tout cas à un jeu vidéo. Donc ces derniers temps, ces changements se traduisent par une augmentation qui est très importante et visible de l'offre de jeux sur le marché. Donc là, c'est repris les données Steam. C'est, je dis visible parce que en fait, peut-être qu'il y avait énormément de production de jeux vidéo auparavant, mais ils n'étaient pas rassemblés de manière centrale ou accessibles à tous. Donc on a beaucoup entendu ces derniers temps, et vous avez dû l'entendre, le nombre de jeux disponibles sur la plateforme Steam a connu une explosion ces dernières années, à partir de 2015. Et donc ça provoque un certain nombre de discussions. Je vais vraiment essayer de faire ça. et de réflexion, y compris en interne dans le monde des professionnels, dans l'industrie du jeu vidéo. Donc là, j'ai repris le titre et l'affiche d'une intervention qui a eu lieu à Indiecade Europe, donc sur justement l'Indiepocalypse. Donc l'idée qu'en fait on arrive à une saturation du marché puisqu'il y a trop de jeux qui sont produits, que les consommateurs sont perdus dans cette offre et que ça pose tout un tas de problèmes, y compris par le fait qu'il y ait une offre très importante fait qu'on ne distingue plus quels sont les jeux de qualité et que même quand il y a des jeux de qualité, en fait ils ne recueillent pas un revenu suffisant pour permettre aux développeurs de vivre, enfin de plus que survivre, de vivre de leur production. Donc on a un questionnement qui est très important de ce côté-là. Et alors ce qui est intéressant dans cette communication, dont vous pouvez trouver un transcript en ligne, c'est l'idée qu'en fait, Pedercini commence par dire, ben, en fait, on a gagné la démocratisation culturelle. On a gagné la démocratisation de l'accès à la production culturelle. C'est quelque chose que nos aînés voulaient. C'est quelque chose qui s'est développé dans les années 70 avec les mouvements Do It Yourself, contre-culture américaine. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes mouvements qui ont donné naissance à Internet. Donc il y a quand même un lien entre ces éléments-là. Ça y est, ben, aujourd'hui, la création de jeux vidéo, la création de tout un tas de produits culturels, mais entre autres de jeux vidéo, est accessible au plus grand nombre. Seulement, en fait, c'est pas tout à fait le paradis, précisément parce que on a des problèmes, donc, comme je disais, d'économie de l'attention, c'est-à-dire que les consommateurs n'ont pas une attention, un temps de loisir absolu, infini. Et donc la question se pose vraiment aujourd'hui pour tout développeur indépendant, c'est comment je me démarque dans la foule. Comment j'arrive à valoriser mon produit. Et donc finalement, l'idée de se passer des intermédiaires, de se passer de ce qu'on appelle les gatekeepers, donc les gens qui auparavant jouaient le rôle de dire votre jeu sera produit ou ne sera pas produit, il arrivera sur le marché ou il n'y arrivera pas. On se retrouve dans une situation qui remet d'une certaine manière des intermédiaires, puisqu'il faut quand même arriver à se faire entendre, arriver à se faire connaître. Dans ces milieux-là. Donc c'est quelque chose qui a été connu déjà par l'industrie musicale il n'y a pas si longtemps, qu'on connaît aussi dans d'autres domaines. Le jeu de société est aussi en train de connaître ce genre de dynamique. Mais c'est encore un élément qui est en train de questionner l'organisation, la structuration, qui décide, qui régule. Si vous êtes dans une formation qui vous spécialise dans les métiers du jeu vidéo, comment je peux faire valoir moi j'ai une expertise par rapport à quelqu'un qui n'en aurait pas et qui développe un jeu, etc. Donc ça c'est à une échelle un peu large. Si on regarde ce qui se passe en France, on s'aperçoit qu'effectivement en tout cas le label indépendant. Donc là, j'ai repris les chiffres du baromètre du syndicat national du jeu vidéo que vous devez connaître. Donc, on voit que, effectivement, l'essentiel des studios en France vont volontiers se définir comme indépendants. Bon, on pourra discuter de ce que ça veut dire. En tout cas, c'est un label dans lequel ils se reconnaissent volontiers. Donc, qui a du sens pour eux. Après, du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Si on regarde un petit peu plus dans le détail, c'est quelque chose qui nous intéresse, c'est d'aller voir de quoi est composée l'industrie du jeu vidéo en France aujourd'hui. Donc là, c'est encore des données SNJV du baromètre 2015. Ce qu'on voit quand on prend le baromètre, c'est qu'on a une majorité de petites entreprises, donc qui sont dans le développement, donc des entreprises qui n'ont pas une taille énorme et dont l'activité principale ou déclarée le jeu vidéo. Mais quand on va interroger, parce qu'on a fait aussi des entrepreneurs, ils nous disent « Ouais, en fait, bon, là, ok, la plupart de mon chiffre d'affaires, c'est de la prestation, c'est-à-dire que je fais des maquettes pour Carrefour, mais par contre, je déclare que mon activité principale, c'est le jeu vidéo. » Et avec une production qui est numériquement plus tournée vers les petits jeux. C'est-à-dire que si on regarde la place qu'ont les jeux sur console dans le développement par rapport à l'ensemble de la production de jeux en France, elle est relativement faible. Donc on a une industrie sur les jeux mainstream qui est importante et qui est la plus puissante, clairement, parce que c'est aussi celle qui va brasser le plus d'argent. Mais ce n'est pas, en termes numériques, en termes de jeux produits, la plus importante. Donc ça, c'était effectivement pour voir un peu la diversité des mondes, en fait, du jeu vidéo qu'on a dans l'industrie française. Si on regarde les chiffres d'affaires, on voit qu'il y a quand même des grandes, grandes disparités entre ce que peut rapporter une petite entreprise et ce que peuvent rapporter des entreprises plus grandes et plus anciennes, et que toutes les entreprises n'ont pas non plus la même pérennité. Je passe un peu vite. L'idée, c'est vraiment de brosser un portrait large. Donc, en fait, on est loin d'une généralisation en France du modèle qu'on connaît bien, enfin qu'on va diffuser le plus, d'un iconique de la production de jeux par des gros éditeurs ou de créativité à la française, donc qui peut être porté par les médias. En fait, la plupart des studios en France, c'est ce que tend à confirmer aussi notre enquête, c'est des tout petites, des très petites entreprises sur un mode qui vont se développer aussi sur un modèle presque familial, qui ont souvent une autre activité à côté et qui vont faire beaucoup de production locale, en fait, de manière presque artisanale, en fait, travailler avec des collectivités territoriales, par exemple, pour développer des jeux ad hoc. Donc les mondes de production, dont certains sont peu visibles et en fait qu'on connaît très mal. Donc c'était un de nos souhaits sur l'enquête qu'on fait. Il y a quand même quelques travaux. Donc là, je vous mets un bouquin qui vient de sortir, édité par le département des études de la prospective et des statistiques, qui donne quelques données sur l'industrie française. On a le baromètre annuel du jeu vidéo en France qui sort depuis 2015, il me semble. Et on a des données sur le marché qui sont produites par le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs qui sortent aussi chaque année. Le problème de ces données sont déjà intéressantes, la preuve du coup ça nous permet d'avoir une base de réflexion, mais c'est qu'elles sont précisément éditées par des syndicats professionnels. Donc, vous savez qu'il n'y a pas de syndicat d'employés dans le jeu vidéo et que forcément elles ont une orientation politique. Déjà, elles interrogent la plupart du temps leurs membres, c'est-à-dire que les données du syndicat national de jeux vidéo va d'abord interroger les entreprises qui sont adhérentes. Donc toutes les entreprises qui ne sont pas adhérentes ne sont pas représentées dans ce marché, etc., etc. Ensuite, on a d'autres, on pourrait discuter d'autres éléments concernant les données produites par le SNJV, le seul qui travaille beaucoup avec l'IDAT. Un petit exemple quand même, c'est par exemple l'âge moyen du joueur. Est-ce que vous avez entendu récemment des données sur l'âge moyen du joueur de jeux vidéo?
Moi, j'ai entendu celle de Julien Villedieu.
Oui, qui est autour de 30 ans, c'est ça, dans mon souvenir, c'est 32.
Non, il est plus que ça.
Ouais, 35.
Je crois que c'est 37, presque la quarantaine.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, leurs données, l'enquête commence avec des individus qui ont 18 ans. Donc, en fait, la phrase plus juste serait l'âge moyen d'un joueur de jeux vidéo adulte est de 37 ans. Bon, voilà, statistiquement, c'est un peu problématique. Donc, on a évidemment une idée qui est de dire il faut faire passer un message, et je pense que c'est un message qui est tout à fait légitime, qui est de dire les jeux vidéo s'adressent aussi à un public adulte. C'est un message qui est important pour l'industrie, c'est un message qui est important pour un certain nombre de choses. Mais du coup, pour nous, on a du coup quelques incertitudes sur la fiabilité d'un certain nombre de données. Donc on a voulu...
Quelque chose qui est, je peux me permettre d'interrompre, ce qui est intéressant, c'est que quand même, pendant toute une période, l'âge moyen du joueur, même s'il était faux, augmentait de plus d'un an par an.
Mais oui, effectivement. Donc on a, enfin en tout cas, on a des données qui sont un peu compliquées à traiter. Par ailleurs, en fait, l'âge moyen des joueurs Enfin, nous, ce qu'on a trouvé dans notre enquête sur les Français, c'est qu'en fait, ça ne voulait pas dire grand-chose, parce que les disparités sont tellement fortes entre les âges, chez les enfants, chez les adultes. Tous les enfants jouent, par exemple, donc ça n'a pas de sens de travailler sur un âge moyen. C'est comme si je vous disais quel est l'âge moyen d'un spectateur de cinéma ou d'un lecteur. Bon, ça ne vous donnerait pas beaucoup d'informations. Une des données, donc on en a déjà parlé un petit peu, qui est par exemple qui est très floue, c'est le nombre d'emplois directs. Donc Stéphane donnait une estimation. Et effectivement, en fait, on n'a pas vraiment d'idée précise. Donc selon les définitions, selon la façon dont on définit ce qu'est un métier dans un emploi dans l'industrie du jeu vidéo, on peut être entre 3000 emplois et 10 500, ce qui fait quand même une différence importante. Mais en tout cas, effectivement, comme le rappelait Stéphane, c'est pas des chiffres qui sont très importants. Une des choses qu'on ne connaît pas et qui est un peu problématique aussi, c'est du coup la démographie des professionnels de jeux vidéo. Alors aux États-Unis, il y a une enquête qui est menée, qui est le Developer Satisfaction Survey, qui a été menée en fait pour une raison un peu spéciale, qui était en fait d'essayer de s'informer par rapport au fait que remontaient les conditions de travail compliquées qu'ont rencontrées les développeurs de jeux vidéo dans certaines entreprises, et notamment à l'époque Electronic Arts, qui avait été dénoncé par les épouses des développeurs d'Electronic Arts en parlant des crunch time, en parlant de la surcharge horaire, de la pression, etc. Et donc, une des manières de contrer ça était de dire il faut des statistiques pour montrer que quand même les gens qui travaillent dans cette industrie ont des caractéristiques un peu particulières. Et peut-être qu'on peut se demander si c'est pas un secteur qui, du fait des conditions de travail, va exclure aussi un certain nombre de personnes. Donc on sait que sur cette enquête-là, alors qu'il y a aussi dont on peut aussi discuter la méthode, mais bon, on a des employés qui sont plutôt, qui ont entre 27 et 34 ans, qui sont plutôt blancs, qui sont plutôt masculins et hétérosexuels et qui sont assez éduqués. Donc ça, on le sait sur la population US, on ne sait rien quasiment, ou peu en tout cas. Peut-être que c'est en cours, il me semble que le SNJV a aussi en cours ce projet-là, sur les caractéristiques des employés dans la population française. Donc nous, on a eu envie justement de proposer une approche qui permettrait d'éviter certains biais, pas tous, qui serait en fait de se dire, plutôt que de dire on va travailler a priori sur un secteur et interroger les gens qui sont dedans, on va interroger les acteurs, on va essayer de suivre les acteurs et on va essayer de les interroger sur leur parcours pour voir précisément où est-ce qu'ils sont allés. Comme ça, par exemple, quelqu'un qui travaille aujourd'hui dans une grosse entreprise de jeux vidéo, mais qui avant a dû travailler dans le web ou est passé dans d'autres domaines, on pourra identifier un petit peu les contours de l'industrie à partir de là. Donc on s'intéresse aux trajectoires biographiques des acteurs du jeu vidéo aussi à la circulation des savoirs, c'est-à-dire comment les savoirs circulent dans les formations et dans les entreprises. Donc une chose qui nous intéresse particulièrement, c'est les formations. Sachant qu'en fait, il y en a, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est assez caractéristique a priori du cas français, qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres pays, c'est qu'il y a un nombre très important de formations aux jeux vidéo en France. Alors, ce n'est pas des formations intégrales, mais il me semble que le site de la FJV en recense 43 au moins parcours. Donc là-dessus, peut-être que Stéphane Natkin pourra me donner des indications plus précises, parce qu'il en sait beaucoup plus que moi, sans doute, à ce sujet. Mais donc, je ne sais pas combien on peut estimer le nombre de personnes qui sortent chaque année de formation métier du jeu vidéo, ce qui arrive sur un marché du travail donc qui est relativement restreint en France. Donc une des questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'ils deviennent ? Donc on a en tout cas le parcours de certains d'entre eux. Donc là, je vous mets juste une liste des enquêtés qu'on a avec certaines caractéristiques qu'on a commencé à qu'on a interrogées. Une des choses que je retiens là pour cette présentation de leurs caractéristiques, c'est qu'ils sont déjà il y a peu de femmes. Bon, ça c'est effectivement un élément récurrent. C'est qu'ils sont tous assez diplômés parce que la plupart des formations aux jeux vidéo en France sont aujourd'hui amènent à bac plus 5, sauf la licence, les licences pro, mais en fait souvent les licences pro essayent d'intégrer ensuite un master, et notamment l'Engmin, qui est la formation la plus réputée et puis une des rares qui est publique dans le secteur. Et donc que deviennent ces individus? Donc ils sortent sur un marché en étant très diplômés. Donc pour intégrer un métier où par ailleurs on ne gagne pas très bien sa vie. Je pense que vous êtes au courant, mais les salaires dans l'industrie du jeu vidéo, comparés au niveau d'exigence au niveau d'études, ne sont pas particulièrement élevés. Bon, ce n'est pas le seul milieu où ça existe, hein, les intellectuels précaires, ça existe dans d'autres métiers artistiques, dans la recherche, etc. Donc on connaît bien ces éléments-là. L'idée, c'est qu'en fait, dans ce type de métier, la question, c'est la question des motivations. Voilà, ma récompense, c'est la passion, c'est le fait que je peux exercer un métier qui me plaît. Donc une des choses qui m'intéressent, c'est comment va se traduire cette motivation. Avec la question aussi, est-ce que cette motivation, elle va tenir à terme? Donc, dans les discours qu'on a, on a des discours qui peuvent être un peu critiques sur ce milieu. Donc, là, on a notamment quelqu'un qui a un peu d'expérience, qui a 6 ans d'expérience, qui est passé dans plusieurs entreprises et qui parle de la manière dont les sociétés gèrent justement la question de la motivation. Comment on engage des individus sur les projets. Donc elle parle de la motivation des jeunes entrants en disant bon bah ils se retrouvent sur le marché du travail, ils sont trop contents, ils voient pas, ils savent pas, personne ne leur dit leurs droits. Il n'y a pas de convention collective dans le vidéo, il y a effectivement peu d'éléments, la juridiction est un peu absente. Personne ne leur a expliqué qu'ils avaient des droits, que les heures sup non payées c'était illégal, etc. Et donc, elle parle de la façon dont chacun s'arrange un petit peu avec ces éléments-là, ou comment Ubisoft va travailler sur les gadgets et les soirées, ce que certains ont dénoncé comme étant la société de consommation, que dans d'autres boîtes, on va donner plutôt, et c'est quelque chose c'est là où j'en viens, parce que c'est un point important, on va donner des responsabilités. En fait, l'idée, c'est on va responsabiliser les gens, on va leur donner de l'autonomie. Une des choses qui va compter énormément dans les entretiens qui revient, c'est que c'est la plupart des professionnels qu'on a rencontrés sont contents d'être là et acceptent de travailler dans ces conditions-là, à condition d'avoir ce qu'ils appellent, ça c'est dans les entretiens qu'on a fait au Québec en particulier, de l'ownership. L'idée, c'est que moi, je veux bien accepter d'être pas bien payé, surtout quand je suis, enfin, moins bien payé, ça dépend, les développeurs sont un peu mieux payés, surtout quand je suis développeur, que j'ai fait Epitech et que je pourrais gagner vraiment beaucoup plus dans un autre type de boîte. Mais je veux avoir des responsabilités et je veux en fait faire une activité qui compte pour moi. Donc cette question de la responsabilité, de l'engagement, il peut se traduire différemment. Donc je vais super vite, je suis désolée, je vais pas, en plus c'est coupé, donc ça peut se traduire très différemment chez tous les individus en fonction aussi de leur type d'activité, mais l'idée générale c'est qu'on va avoir besoin d'une forme de satisfaction et c'est quelque chose qu'on va retrouver d'une certaine manière chez les étudiants parce qu'on travaille aussi, une partie de notre enquête s'adresse aux formations métiers du jeu vidéo. Pour l'instant, on a travaillé sur la licence pro métier du jeu vidéo de Bobigny. C'est assez proche de Paris, enfin c'est dans Paris 13, donc c'est aussi pratique. Et donc notamment, on est allé les interroger en leur posant une question simple qui était où est-ce que vous aimeriez travailler? Sur quel type de jeu vous aimeriez travailler? Sur quel type de jeu vous n'aimeriez pas? Et ce qui est marrant, mais comme souvent en sociologie, quand on fait de la sociologie, ce qui est le plus marqué, ce n'est pas les goûts, c'est les dégoûts. Donc on est plus clair sur ce qu'on ne veut pas, que sur ce à quoi on ne veut pas être associé, que sur ce à quoi on veut être associé. Et donc là, autant les les projections positives sont un peu variées, autant c'est assez clair que les étudiants n'ont pas très envie d'aller travailler pour Electronic Arts et pas très envie de travailler ni sur des jeux populaires comme FIFA, ni sur, sur Candy Crush. Et c'est une des choses qui, à mon sens, cette arrivée de public qui est formé à un niveau assez élevé et aussi à qui on a enseigné des connaissances qui lui donnent envie de créer des jeux. Donc si vous êtes ici dans des formations parties pour vous au métier du jeu vidéo, vous avez déjà, vous êtes en train de conduire des projets, vous avez une certaine autonomie, vous avez une certaine marge de création qui fait qu'une grande partie de professionnels vont avoir un attrait, au moins symbolique, pour le monde indépendant, où justement c'est ce qui est valorisé, c'est le fait de pouvoir avoir une autonomie de création sur... c'est un peu ce qui rassemble tous les discours et toutes les définitions qu'on trouve des jeux indépendants, c'est l'autonomie de création. Après, les questions qu'on peut se poser sur cet élément-là, c'est justement la question des gatekeepers et poser quels sont aujourd'hui dans cet environnement indépendant, quel est le rôle notamment des formations comme gatekeepers, c'est-à-dire comment aujourd'hui justement les choses vont évoluer, qui est-ce qui va décider. On voit aujourd'hui que les intermédiaires culturels qui se dessinent, ce sont les plateformes. Ce sont aussi les festivals, donc typiquement Indiecade, ça fait partie des intermédiaires culturels qui vont mettre en avant un certain nombre de jeux par rapport à d'autres. Et est-ce que ce sont aussi les formations qui sont des endroits où circulent les professionnels entre les mondes aussi mainstream et les mondes indépendants? Voilà, donc je finis là-dessus. Et peut-être que là-dessus, sur la question des formations, Stéphane Netkin aura des réactions. Voilà.
Oui, je vous entends. J'étais en train d'essayer de remettre la caméra. Je ne sais pas où est repassé le machin qui permet. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Qui permet de remettre la caméra. Voilà. Bon, sur la question des formations, le fait qu'on ait par habitant le plus de formations aux jeux vidéo, c'est bien connu. Le problème, c'est que le marché qui est visé n'est pas les gens qui font du jeu vidéo, mais les parents qui ont des enfants de 12 ans accrochés à l'écran avec une manette et qui sont prêts à mettre 6 000 euros par an pour trouver une voie d'avenir à leur gamin. Et donc, j'ai beau leur expliquer que c'est pas parce qu'on va toute la journée au cinéma qu'on devient un grand réalisateur, il suffit pas de jouer aux jeux vidéo pour devenir un grand concepteur. Ça, c'est, disons, sur la base. Alors, de façon plus générale, je reviens sur ce que je disais. Moi, je suis persuadé depuis longtemps que de plus en plus de gens qui sont dans le jeu vidéo vont faire plein de choses. Alors déjà, je suis persuadé que le jeu vidéo, c'est pas un métier, c'est une spécialisation. C'est-à-dire, on est soit graphiste, on aime faire de l'animation, on aime regarder, on est ingénieur du son, musicien, on est programmeur, et à un moment donné, parmi cette chose-là, eh bien, on apprend à faire des jeux vidéo, et ça fera partie, comme dans l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, d'une partie de votre existence. Vous ferez de temps en temps un peu de jeux vidéo, et de temps en temps, vous irez faire du web interactif pour une chaîne de télévision, ou du serious game pour une boîte qui fait des produits d'enseignement. Mais au-delà de ça, je pense qu'effectivement, tous les gens qui font du jeu vidéo, à un moment ou à un autre, vont être appelés et que l'ensemble de l'industrie, je dirais, des médias, va chercher des gens qui connaissent l'interactivité, qui connaissent les mécanismes psychologiques et sociologiques qui sont utilisés par les gens du jeu vidéo, à d'autres fins de communication politique, de choses comme de la thérapie ou la manipulation de foule. Et donc, c'est la raison profonde pour laquelle il est intéressant de former des gens aux jeux vidéo au-delà de ce fameux marché de 5 000 emplois. Après, ceci dit, il y a beaucoup, beaucoup de formations aux jeux vidéo. je ne vais pas dire du mal de mes collègues, mais il y en a quand même pas mal qui sont quand même
De
de
vastes
vastes
escroqueries.
escroqueries.
Il y a une question qui se pose aussi, c'est du coup enfin, par rapport à l'évolution actuelle, alors peut-être que c'est une question de cycle et le fait que dans les mondes, y compris les mondes indépendants, on a du mal à gagner sa vie. Il y a des gens qui dénoncent une forme du coup d'injustice sociale aussi sur le fait de pouvoir se maintenir dans ce type de métier, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui seraient le plus à même de ne pas avoir à manger pendant un certain temps qui leur permettrait de finir par développer un jeu vidéo et d'arriver sur le marché, de se faire connaître, c'est les gens qui ont le capital social et le capital économique, familialement, qui leur permettent de se maintenir et de survivre le temps d'arriver à ces moments-là. J'ai cru comprendre que les formations, et typiquement l'engine qui est publique par rapport à d'autres, parce que la question se pose aussi par rapport aux formations payantes, essaye d'avoir une politique plutôt qui justement ne va pas dans ce sens-là. Mais je ne sais pas si c'est le cas. Si,
Je pense que faire des. Si on regarde, qu'est-ce que c'est que faire des jeux vidéo? Faire des jeux vidéo, ça va d'une approche qui est purement artistique. Il y a des gens qui sont pratiquement plus des plasticiens que des gens qui font des jeux vidéo, qui font des installations interactives et qui se réclament du jeu vidéo. Ça passe par le jeu indépendant jusque à Assassin's Creed, 300 personnes pendant 4 ans dans un studio à Montréal. Donc, dans chacun de ces domaines-là, l'économie est complètement différente. Et je pense que si vous prenez l'équivalent, regardez les gens qui sortent d'écoles d'audiovisuel avec et des vidéastes et tout ça. Entre des gens qui vont faire de la vidéo d'art, des gens qui vont faire des web-séries et des gens qui vont faire Donc, cette remarque-là, elle revient de l'idée que pour un certain nombre de gens, les métiers du jeu vidéo, c'est des métiers de technologie. Alors, c'est pas vrai, c'est les métiers de contenu. Si vous regardez les salaires dans les métiers de contenu, ben, les salaires du jeu vidéo sont pas pires et sont quelquefois meilleurs que les gens qui sortent d'une école de cinéma. Évidemment, si vous comparez ça avec les salaires des ingénieurs qui vont soit dans les startups modèle Macron, soit dans des grosses boîtes d'informatique, évidemment, là, la comparaison est plus dure à réaliser, mais c'est parce que il y a une confusion entre l'idée, le jeu vidéo s'appuie sur une technologie, mais les gens qui sont vraiment des salariés de la technologie des jeux vidéo, c'est les gens qui font des outils comme Unity ou Unreal, et eux qui sont dans, effectivement, la fabrication d'outils informatiques, et donc dans le marché de l'informatique. Et c'est de là que vient cette sensation de pauvreté. Et après, il y a un autre problème, mais qui est plus spécifiquement français, c'est que pour des raisons qui sont très mauvaises, les professionnels du jeu vidéo ont choisi de ne pas avoir leur convention collective et justement de rentrer là, maintenant pratiquement toutes les sociétés, en tout cas c'est la recommandation du SNJV, rentrent dans la convention collective de l'informatique qui est en fait la convention collective de la métallurgie. Alors que la mode de fabrication d'un jeu vidéo, dans la majorité, s'approche beaucoup plus des conventions collectives du cinéma ou de l'animation, et le mode de production et le fait que les équipes grossissent, diminuent, ressemble beaucoup plus à ça. Et c'est cette espèce de confusion entre les métiers de technologie et les métiers, de contenu, voilà.
D'accord. Mais du coup, enfin, ouais, je reste sur sur ce questionnement. Est-ce que les formations font attention au recrutement, je dirais comme ça, plutôt au recrutement social de leurs étudiants, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait une forme de diversité qui soit présente dans le recrutement. Alors, je sais que c'est le cas pour la représentation en termes de genre. Mais je me demandais si c'était le cas aussi sur d'autres critères comme du coup enfin, le fait d'avoir les moyens ou pas d'assumer un métier qui n'est pas rentable.
À ma connaissance, alors c'est à mon avis la question elle se pose plutôt autrement. C'est qu'est-ce qui fait si on prend une formation comme l'Engine, C'est vrai que la différenciation sociale à l'entrée de l'aide du mine, elle existe peu à cause des tarifs publics, mais elle existe quand même parce que ben, les gens, ils ont déjà fait une licence. Donc il faut déjà avoir des gens à qui on a pu payer une licence, et puis avec un certain niveau. Et donc effectivement, il faudra avoir des filières alternatives pour rentrer à l'aide du mine. Et après, si on a des filières, par exemple, je sais qu'il y a toute une polémique autour d'une école de technologie qui est l'école 42, qui ne fait pas payer les gens et ce que je trouve le plus intéressant dans l'école 42, c'est qu'il n'y a pas de critère de diplôme pour rentrer. Il y a un concours, vous passez le concours et quel que soit, vous pouvez être un brillant génie n'ayant aucune formation et donc vous n'avez pas cette mécanisme de social qui fait qu'il faut que vous ayez obtenu une licence pour rentrer dans l'école. Ceci dit, c'est quand même ultra sélectif, c'est-à-dire que je ne sais plus combien, j'ai vu, il y a 900 élèves qui sont rentrés à l'école 42 sur je ne sais plus combien de dizaines de milliers d'élèves qui ont candidaté à la dite école. Donc, peut-être qu'à un moment donné, quand on aura atteint une certaine maturité, je pense qu'on compare le jeu vidéo avec des domaines qui ont 100 ou 150 ans ou plus que ça d'existence. Donc, qui ont une maturité je dirais, à la fois industrielle et dans la façon dont on forme, ce n'est pas le cas du vidéo. Mais peut-être que quand on aura une maturité plus grande, on pourra faire des filières d'entrée comme il y a à Sciences Po, qui ne s'adressent pas aux gens qui arrivent directement à Sciences Po. Et on pourra réfléchir à un certain nombre de choses comme ça. Après, le fait que derrière, il faille de l'art, ben, c'est vrai qu'on dit que Steve Jobs, il était dans son garage. Et il commençait à bricoler, et son papa est venu, il dit, écoute, j'ai 15 millions de dollars, je te les mets dans ta société, je pense que ça va t'aider à continuer. Cette histoire-là risque malheureusement, c'est peut-être un peu exagéré, et c'est plutôt l'anecdote qui raconte ça, mais enfin, c'est effectivement très difficile si on veut commencer une société d'indé, nous on a un incubateur à l'intérieur de l'Intune. On prend eh bien, une société d'indé de jeu, c'est exactement la même chose que de se lancer dans la production du cinéma d'auteur. Hein. Il faut manger de la pizza de mauvaise qualité pendant un certain nombre d'années, sauf à avoir un gros capital derrière soi pour arriver à être quelqu'un de connu et sans garantie d'y arriver et vivre de ça. Mais je ne sais pas quoi. Enfin. Changer radicalement notre société, ce qui est peut-être la chose qu'il faut faire, je n'ai pas de solution à ce problème.
Du coup, c'est. Oui. Il y a un micro, du coup, ou pas?
Je vais parler de micro et.
C'est plutôt vous parliez dans votre étude de l'âge moyen des joueurs. À partir de quand en fait on est considéré comme un joueur?
Ah, c'est une très bonne question. Bah, ça dépend aussi de comment vous définissez le fait de jouer et ce qu'est un jeu vidéo.
Ouais. Mais je veux dire, est-ce que ma mère qui va jouer à Candy Crush une fois par mois, est-ce que c'est une joueuse?
Bah, au sens où nous, on a fait notre enquête, oui, parce qu'on a décidé de prendre la définition la plus large possible du jeu vidéo, précisément pour ne pas exclure des publics qui sont normalement pas du tout interrogés, comme votre mère, grand-mère, je sais plus, votre mère, qui va jouer très, très épisodiquement, ce qui d'ailleurs pose des questions quand on les interroge sur leur pratique, parce qu'ils se rappellent plus si c'est sur quoi c'était, ils connaissent pas les jeux, etc. Mais un des résultats intéressants qu'on a dans cette enquête, c'est justement, vu qu'on a posé la question la plus large, quel est le jeu, enfin, je ne sais pas si du coup vous pouvez imaginer, quel est le jeu le plus joué en France, jeu vidéo.
Minecraft.
FIFA.
Non, c'est un jeu mobile.
Ah ben, le jeu avec les cartes, là, le ficelle.
Le solitaire. Alors, si on prend en compte la définition la plus large possible du jeu vidéo, effectivement, nous, on avait décidé de prendre ce parti-là. C'est le jeu le plus joué en France, c'est le solitaire. Et ensuite, par contre, vous n'étiez pas loin avec FIFA, avec des jeux très populaires qui sont en général...
J'ai pas entendu le nom des deux jeux.
C'est le solitaire le plus représenté dans notre échantillon. Parce qu'on a pris en compte les jeux préinstallés. Et donc, typiquement, c'est le jeu auquel jouent le plus les Français sur ordinateur. Donc du coup, voilà, c'est oui, si on prend cette définition large, mais vous avez raison de poser la question. Dans l'âge moyen, il faudrait savoir quand on nous donne ces résultats, quand.
Dans la dernière présentation de Julien du baromètre, il y avait une classification des joueurs en fonction du nombre d'heures, ceux qui jouent moins de temps d'heures par semaine, entre temps d'heures et... Il y avait au moins trois classes, hein, mais je ne me souviens plus exactement et je n'ai pas ces slides.
Bonjour, je suis étudiant en master en marketing. J'aurais une question sur les technologies plutôt. Pour Stéphane, plutôt, je pense, au niveau de la publicité dans les jeux vidéo, est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport qui est prêt pour durer ou la publicité dans les jeux vidéo?
Est-ce que j'ai entendu?
Est-ce que vous avez entendu la question,
Stéphane?
Ma question c'était est-ce que vous pensez que le rapport entre les jeux vidéo et la publicité.
Pour l'instant, ça ne marche pas très bien. Il y a eu diverses tentatives. Alors après, c'est peut-être aussi la façon dont c'est intégré. Hein. Regardez aussi déjà la publicité dans les apps en général. Ça, à mon avis, l'effet publicitaire est pas. J'en sais rien. Alors actuellement, justement, ça aussi, c'était un commentaire du SNJV. Après différentes tentatives, c'est pas un grand succès pour l'instant, la publicité dans les jeux vidéo. Alors, est-ce que c'est parce que la publicité est mal intégrée dans les jeux? Est-ce que c'est les gens qui mettent de la publicité ne réfléchissent pas aux modalités de jeu? À quel moment est-ce que si on réfléchit à la publicité qu'il y a dans les séries télévisées, la façon dont l'endroit où sont insérés les spots de publicité, c'est le résultat d'une longue réflexion, pas toujours convaincante, mais enfin en tout cas, il y a tout un travail sur à quel endroit est-ce qu'on doit couper pour qu'ils reviennent dans l'émission de télé, etc. Et à mon avis, ce travail n'a pas encore été fait dans les jeux vidéo, et ça dépend aussi du type de jeu, c'est-à-dire que mettre de la publicité dans un jeu sur mobile, c'est probablement beaucoup plus compliqué que sur un jeu sur console, parce que sur un jeu sur console, la durée des sessions de jeu est mieux contrôlée, on a plus conscience de ce qui va se passer sur un jeu sur mobile, mais pour l'instant, les gens qui vendent des jeux sur console ont moyennement envie de mettre de la publicité, si justement dans FIFA, sur le bandeau en bas du match de foot, la publicité est vendue, mais parce que ça, c'est complètement intégré au jeu dedans. Donc, pour répondre à la question, à court terme, ce n'est pas vraiment un grand succès. À moyen ou long terme, ça dépend de l'intelligence, la subtilité ou la méchanceté, comme vous voudrez, des publicitaires qui se mélangent aux gens des jeux vidéo. Et c'est pour ça aussi que les publicitaires vont embaucher des gens qui ont sorti des écoles de jeux pour faire de la publicité plus maligne à l'intérieur des jeux.
Je représente l'école de gestion de commerce de la CCI Charente. Et apparemment, les diplômés de créateurs de jeux de vidéo sont amenés à être des indépendants. Reçoivent-ils dans leur parcours de formation une formation à la création d'entreprise qui leur permettrait non seulement de... Alors, non seulement ils ont développé des talents, mais après, sont-ils équipés au business, à faire face au business? Et tout ce qui est les droits d'auteur, développement marketing, enfin tout ce qui va avec effectivement la rentabilité. Talent certes, mais comment les aider à être plus.
C'est moi qui réponds ou pas ? Je sais pas. Moi, je peux essayer de répondre. Alors, dans votre question, il y a plein de choses complètement différentes. Alors déjà, il y a un vrai problème de fond. C'est que les gens qui sortent d'une école de jeux vidéo et qui créent une société, en général, ils font une société pour vendre leurs jeux. Ils font pas une société pour créer un business. Et d'ailleurs, quand vous expliquez aux gens, donc ils ont fait un proto de jeu dans le cadre de l'école, ils veulent que ce jeu sorte. On leur explique que pour sortir un jeu, il faut trouver des capitaux. Pour trouver des capitaux, il faut créer une société. Donc, ils créent une société, mais pas avec une idée de ce qu'elle sera la caractéristique de ces sociétés sur le société marché. Elles le font pour développer leur jeu. Et vous avez beau leur expliquer que c'est pas un projet de société, ça les intéresse pas, parce que ce qui les intéresse, c'est de terminer leur jeu. Et ça, je vous renvoie à une école, dans une école de cinéma, vous avez une classe des réalisateurs et une classe des producteurs. Et les réalisateurs, ils savent un peu combien ça coûte de faire un film, mais c'est pas eux qui font les montages financiers. Et donc, déjà, il y a une grande différence. Alain Jumin, parmi les différents métiers qu'on apprend, celui qui est le plus proche, c'est le métier de chef de projet. Le métier de chef de projet, c'est celui, effectivement, qui fait le budget, qui gère les équipes. Dans le langage du jeu vidéo, ce qu'on appelle les producteurs, ça n'a rien à voir avec des producteurs de cinéma, mais c'est comme ça. Et donc, les producteurs, on a fait évoluer progressivement la fonction de producteur en introduisant de plus en plus d'éléments de marketing et de marché. Pourquoi ? Parce que il y a 10 ans, les studios de jeux vidéo n'avaient en face d'eux que les éditeurs. Donc le chef de projet, il avait en face de lui un producteur, un spécialiste du marketing du jeu, qui était chez l'éditeur, et c'est avec lui qu'il discutait. Maintenant, à cause de la distribution en ligne, contrairement à ce qu'il espérait, il n'est pas tout seul en face du consommateur. Il y a la plateforme de distribution et toute une série de choses, mais il faut qu'il commence à comprendre le comportement des joueurs. Donc, on leur fait des cours sur le marketing, le prélèvement de big data et comment on analyse l'arrêt du joueur, etc. Mais ça, on fait. Alors, donc, c'est sur cette partie-là, et je pense que la plupart des écoles de jeux vidéo qui forment à Bac+5 introduisent de plus en plus d'éléments, de notions de marketing, ce qui n'en fait pas des grands hommes du marketing, parce que si on veut devenir un grand homme du marketing, il vaut mieux aller au CEP et suivre une formation en marketing avec 3 mois de spécialisation sur qu'est-ce que c'est que la production d'un jeu et quelles sont les caractéristiques spécifiques de ce marché. On en a d'ailleurs discuté avec Inès un certain nombre de fois, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc ça, c'est sur la première partie de votre question. La deuxième partie de votre question, c'est la création d'entreprise. Alors, dans les écoles qui évoluent vers l'incubation, si c'est le cas d'une autre, on essaye de s'appuyer sur un certain nombre de gens qui font tous les cours de base à la création d'entreprise. Ce n'est pas donné à tous les élèves, c'est donné plutôt à ceux, et ça va le devenir de plus en plus si on arrive à trouver les sous, à tous les élèves qui veulent créer une entreprise à la sortie de l'école. C'est pas mal, c'est même assez indispensable, ça permet de ne pas confondre le chiffre d'affaires et les bénéfices et la trésorerie et le chiffre d'affaires, mais c'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant parce que le monde du jeu vidéo est de ce point de vue-là très spécifique. Le montage du financement d'un jeu, ça repose sur des mécanismes qui sont un mélange des mécanismes du financement de technologie, du financement de contenu avec des spécificités bien françaises comme le CNC et autres organismes fournissant de l'argent. Et donc, pour faire ça, il faut non seulement avoir des gens qui savent comment monter des boîtes, mais aussi des gens, et la même chose sur les problèmes de propriété intellectuelle, et enfin, je vous passe sur tout ce qui est là-dessus, des gens qui sont très spécifiques à ce domaine-là, et c'est un peu plus compliqué. Et pour être tout à fait franc, pour l'instant, sur notre système d'incubation qui est naissant, c'est un peu là où on se heurte à la difficulté. C'est-à-dire qu'il faut trouver des gens qui sont des gens, à la fois en termes de communication, de montage des financements et même un peu du marketing, qui ne sont pas des généralistes dans ce domaine-là, mais qui connaissent réellement ce domaine du jeu vidéo. Et après, je reviens sur le départ. La plupart des indés jeux, c'est des gens qui n'ont pas du tout un projet d'entrepreneur. Ils ont un projet de réalisateur. Et donc, c'est une vraie différence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les former à quelque chose qui est comment monter le financement de ce qu'ils ont envie de faire, mais il faut bien leur expliquer que s'ils montent une boîte, il faut qu'ils aillent au-delà de l'idée du premier jeu.
Peut-être je pourrais ajouter sur les cas qu'on a rencontrés, nous, on a eu des choses très variées. On a eu effectivement l'entrepreneur qui a monté sa boîte après avoir sorti un jeu qui a eu un succès sur mobile et qui a découvert au bout de 2 ans, parce que son banquier lui a dit qu'il pouvait prétendre au crédit d'impôt parce qu'il n'en avait aucune idée. Et donc, il, à partir de là, a pu faire les démarches nécessaires. On a des cas où effectivement la question des fonctions de support est interrogée par les collectifs notamment. C'est-à-dire les endroits où il y a des clusters, enfin ce qu'on appelle clusters, c'est des endroits où il y a des associations professionnelles qui essayent de rassembler les gens. Au Québec en particulier, la Guilde des développeurs indépendants du Québec, c'est une des fonctions qu'elle veut avoir. Alors je ne sais pas où ils en sont, mais c'est d'arriver à, par exemple, avoir un comptable en commun, avoir un juriste en commun pour des studios qui ne peuvent pas se permettre d'avoir ces fonctions-là. Et après, sur la capacité des entrepreneurs à mobiliser, effectivement, on voit la différence dans les gens qui sont passés quand même par certaines formations, notamment l'Engmin, avec la capacité, en tout cas, à savoir où chercher les ressources pour apprendre à avoir ces fonctions-là, ou alors par le fait d'être passé dans des grandes entreprises avant de lancer un studio indépendant, et où là, ils font « Ah ben, j'ai appelé un tel qui était au marketing, et du coup, il est intervenu sur le projet à ce moment-là. » Donc, il y a des manières, des fois, de mobiliser des ressources qui viennent de l'industrie mainstream dans le monde indépendant, parce qu'il y a des circulations entre les deux mondes. Mais donc, il y a des cas assez variés. Effectivement, c'est un des problèmes qu'ils rencontrent.
Oui, voilà. Moi, j'ai une question aussi pour Stéphane. C'est le rapport à la recherche, justement, dans la mesure où il semble que les enjeux, enfin, que tu as présenté, en fait, c'était quand même des enjeux de très très haute technologie, l'intelligence artificielle, etc. Enfin, est-ce que nous, on est capable, enfin, ou nos studios, de justement d'être compétitifs finalement sur ces nouveaux espaces de jeu, et comment est-ce que tu envisages enfin l'articulation avec la recherche, justement, et comment on...
C'est deux choses. Alors, à mon avis, c'est deux choses différentes. Comme je disais tout à l'heure, le jeu vidéo, c'est pareil, les sociétés qui produisent des jeux, elles sont très peu productrices de technologies très pointues. Les technologies qu'elles inventent, c'est les technologies qui permettent de pallier ce que l'on sait faire en temps réel par rapport à ce qu'on sait faire en cinéma d'animation. Et en fait, les gens qui sont les producteurs de technologies sont les gens qui font les outils pour faire du jeu, les gens qui font les moteurs de jeu, par exemple, et puis les gens qui font les dispositifs comme... les casques de réalité virtuelle et tout ça. Donc ça, c'est un premier point de vue. C'est-à-dire que si tu veux vraiment être quelqu'un de très pointu dans un domaine qui est lié aux jeux vidéo, eh ben, pour revenir à la problématique d'école, il vaut mieux aller faire une formation d'informatique spécialisée dans l'intelligence artificielle qu'une école de jeux vidéo. Alors après, maintenant, si on prend l'articulation à la recherche, il y a plein de gens qui, en France et même à l'étranger, ont commencé à monter des équipes de recherche qui tournent autour du jeu vidéo. Ceci dit, c'est comme les métiers, c'est une spécialisation par rapport à un domaine. C'est-à-dire que le jeu vidéo en soi n'est pas une science, c'est un objet de recherche. Cet objet de recherche peut porter sur des problématiques sociologiques. Vous avez quelqu'un qui est une chercheuse dans ce domaine-là, ça peut porter sur des problématiques d'interaction homme-machine avec un aspect qui est lié à l'IHM au sens ergonomique du terme et l'IHM au sens des mécaniques d'écriture et de conception et des outils pour l'écriture et la conception, etc. Des gens qui font de la recherche à partir de problèmes qui sont mal résolus en matière de traitement d'image ou de traitement du son, et, etc. Donc la recherche dans la narration aussi, des gens qui font du travail sur la narration interactive, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire en matière de narration interactive. Et donc, tu as une séparation du point de vue de tous ces chercheurs entre, disons, deux types de chercheurs. Les chercheurs qui se placent du point de vue de mécanique, de principe et de technique de production, et les gens qui font de l'analyse, ce qu'on appelle les game studies, hein. Donc, ils ne sont pas forcément des gens qui essayent de donner des solutions ou des points de vue pour les gens qui font du jeu vidéo, mais qui regardent quel effet le jeu vidéo sur notre société, sur la psychologie des gens, sur l'histoire des médias, etc. Tout ça. Donc, il y a une intégration qui est de plus en plus forte. Il y a eu une résistance considérable au début. La première fois que j'ai acheté des consoles de jeux au CNAM, il a fallu un mois et demi d'expliquer que c'était pas pour faire jouer mes enfants. Et donc, maintenant, plus personne ne croit réellement ça. C'est bien d'abord, mes enfants sont trop grands. Et donc, y a, c'est passé, comme ça a été dit par Viciane, c'est passé par le moment où on a compris que c'était un gros marché. À partir du moment où il y a des histoires de gros sous, là, ça commence à devenir sérieux. Avant, ça ne l'était pas. ce qui manque encore, par exemple en France, ce qui manque, c'est des gens qui sont capables de... Enfin, il n'y a pas encore des grosses équipes avec des... On a notre mode de fonctionnement chez nous à l'université, où pour créer vraiment un laboratoire, il vous faut deux professeurs chenus de rang A qui sont en charge de faire de la politique pour mener votre laboratoire, quelques professeurs de rang A, mais qui sont pilotes dans la recherche, et tout un tas de jeunes et vaillants maîtres de conférences et thésards pour faire la recherche proprement dit. Et ça, des grosses structures. Mon équipe de recherche travaille sur l'interaction homme-machine et pas mal de choses autour du jeu vidéo. Ça représente 3 rangs A et 4 maîtres de conférences, si je n'en oublie pas, et une dizaine de chercheurs. Donc, c'est pas une grosse équipe de recherche. Et bon, mais ça va venir, hein. Je pense qu'à un moment donné, mais comme je dis, c'est ce qui est intéressant dans la recherche dans le jeu vidéo, c'est qu'elle est très souvent pluridisciplinaire. Par exemple, nous, on fait des systèmes d'interaction, on se penche sur la façon dont on écrit des jeux thérapeutiques, etc. Et pour l'évaluer de ça, il faut que je travaille avec un laboratoire de psychologie cognitive qui peut être à l'université de Poitiers ou le Lutin à Paris. Et donc, on est obligé de travailler ensemble, et c'est très bien parce qu'on apprend des méthodes. Et même dans certains camps, quand on sort des mécanismes classiques, il faut aller chercher des anthropologues. C'est très enrichissant. Par contre, ça ne correspond pas du tout au cadre de la recherche en France, où tout est découpé à partir des sections du CNU. Et donc, il faut être assez inventif et louvoyer.
J'ai une question à vous deux. J'étais atterré d'apprendre que le capteur oui allait disparaître. Est-ce que vous avez une réponse du côté de la sociologie ou du côté des inventeurs et des créateurs? Qu'est-ce qui n'a pas pris?
Tu veux parler de la Wiimote? La Kinect aussi va disparaître. C'est officiel, Microsoft. Moi, j'avais pas entendu parler de la Wiimote, mais la Wiimote disparaît puisque la Wii disparaît. le nouveau truc de Nintendo avec la Switch, c'est repenser à partir de la Wiimote. C'est bien un truc. Il faut tous les 5 ans foutre à la poubelle le truc précédent et passer au suivant.
Je n'ai pas vraiment de réponse. Il faudrait voir quelles sont les études sur les usages de la Wiimote. Est-ce que vraiment le capteur est un truc qui est essentiel dans les pratiques de jeu, ou est-ce que ça fatigue plus qu'autre chose? Je me souviens de travaux en tout cas qui montraient que Il y a eu des usages qui étaient transgressifs du capteur en essayant de tricher, parce qu'au fond, au final, on n'a pas forcément envie de s'agiter vachement quand on joue un jeu vidéo dans son salon chez soi. Donc, je ne sais pas du tout si ça a pu entrer en compte. Si c'est d'autres, faudrait pour le coup avoir, mais je suis sûre qu'ils ont des données d'usage très importantes et que on pourrait...
C'était quand même une ouverture, à un autre monde sensitif qui était abandonné, enfin qui est en train d'être abandonné, ou peut-être transformé par d'autres outils, comme le dit Stéphane.
Mais ce qui est plus noté sur la Wiimote, c'est plutôt l'analogie avec la télécommande que le capteur, en fait. Le véritable apport en termes d'usage et le fait que ça a aussi amené que c'est censé avoir amené toute une part de public et de nouveaux marchés, c'est plutôt l'idée qu'on s'en sert comme d'une télécommande et que du coup c'est familier, ça fait pas peur, c'est pas trop marqué jeu vidéo, etc. Enfin, moi il me semble que c'était plutôt les échos que j'ai eus sur cet objet-là.
Je sais pas, c'est peut-être. Si on voit par exemple que l'âge moyen des joueurs après 18 ans c'est 37 ans. Peut-être ça vient de là aussi. Peut-être qu'il y a des habitudes qui ont été prises et des déformations qui font qu'on ne s'ouvre plus à d'autres types de...
Mais si vous prenez la Wiimote, hein, si on prend la Wiimote, c'est un dispositif qui est inventé pour justement faire jouer des gens qui n'étaient pas des joueurs. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On commence par casser la manette habituelle des joueurs. On la met en deux moitiés, de façon à ce que quelqu'un qui a l'habitude de marcher avec un pad ne puisse plus fonctionner comme d'habitude, et donc que le gamin bien entraîné est presque à égalité avec son grand-père qui n'a pas l'habitude de faire ça. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est des dispositifs qui pouvaient traquer le mouvement au moment de la Wiimote, il y en avait déjà plein. Sauf qu'on en a eu, comme on n'avait pas de Wiimote pour faire des jeux à Wiimote, ça valait 500 à 1500 euros, et il fallait une demi-heure de calibrage avant d'arriver à la faire marcher, ce qui évidemment marche pas avec un jeu vidéo. Donc la Wiimote s'est fait avec une technologie qui est beaucoup plus rustique. Le capteur de mouvement a été d'ailleurs développé en France à Grenoble, la version initiale. Technologie beaucoup plus rustique, qui ne fait pas grand-chose par rapport à tout ce qu'on pouvait faire à l'époque, mais qui permet de reconnaître 56 mouvements. C'était ça qui était livré avec la première Wiimote, quelle que soit la personne qui les fait. C'est un enfant ou un adulte, quelqu'un de lent ou quelqu'un de rapide. Quand vous faites un cercle, il reconnaît un cercle. Ce qui est très compliqué. Si on voulait faire ça de façon générale, c'est un problème. Même avec des caméras beaucoup plus sensibles comme on fait maintenant, c'est un problème de reconnaître un alphabet dans l'espace. C'est un problème très compliqué. Donc, si vous les mettez à 56 mouvements, eh ben, ça marche. Et quand vous voulez en rajouter un 57e, je me souviens que les gens d'Ubisoft travaillaient là-dessus, eh ben, c'est très compliqué. Mais le système est fait pour un public à un moment donné et pour un mode d'interaction qui était je prends un papy et je lui fais faire, il sait faire des ronds dans l'espace et donc il va arriver à se servir de la Wiimote. Puis après, il y a les problèmes de fiabilité de ce système pour un système grand public. Peut-être que ce système n'a plus de sens pour différentes raisons. Celle que vous avez signalée, c'est que même maintenant, bientôt les papys seront servis un jour d'une manette de jeu. Donc c'est plus la peine de leur casser en deux, puisque ils étaient jeunes à une époque et ils jouaient à Counter-Strike. Alors d'ailleurs, ça c'est plutôt au clavier et à la souris qu'à la manette de jeu. Donc ça c'est une première raison. Et la deuxième raison, c'est que les dispositifs d'interaction, que ce soit dans le jeu vidéo, dans la musique, les dispositifs d'interaction sur le numérique sont remis en cause périodiquement pour différentes raisons, et entre autres celles d'évolution de la technologie. Ce qu'on fait avec les caméras qui sont associées au système de réalité virtuelle comme l'HTC Vive était, il y a 15 ans, totalement impossible. Enfin, sauf à dépenser des fortunes, c'est-à-dire c'était possible pour des systèmes de la NASA et trucs comme ça. Et donc, maintenant, on peut imaginer d'autres interfaces et d'autres systèmes, et ça renouvelle le marché. Ça refait vendre des trucs qui marchent très bien et qui ont moins de 5 ans, sont partis à la poubelle et sont remplacés par d'autres trucs qui font d'autres choses.
Question. On s'interroge actuellement pour mettre les jeux vidéo aux Jeux Olympiques. Alors, est-ce que Stéphane est prof de sport et Vinciane sociologue du sport?
Alors, on vient d'intégrer un thésard qui va faire une thèse sur l'e-sport, donc moi non, pas spécialement. Mais effectivement, les sociologues du sport sont aussi sur ces questions-là. Il y a Nicolas Besson qui a soutenu une thèse, qui est en STAPS, donc qui est en spécialité études du sport, et qui a soutenu une thèse sur l'e-sport. Donc oui, on peut.
Je pense que il ne faut pas prendre le problème comme ça. Ce qui est intéressant, et j'ai entendu quelqu'un qui est très connu au monde du jeu, qui s'appelle Jean-Noël Portugal, et il me racontait ça il y a très longtemps. Il m'a dit, un jour ou l'autre, on fera des jeux vidéo pour que les gens regardent les joueurs jouer. C'est-à-dire, on va faire des jeux vidéo qui seront basés pour créer un spectacle. Et l'e-sport est au sport ce que le sport est au spectacle. C'est-à-dire qu'il s'agit essentiellement de monter un spectacle autour de gens qui jouent à des jeux vidéo, et il y en aura des tas d'autres. C'est-à-dire que l'idée que le jeu vidéo est une base pour un spectacle qui est regardé, on va créer des jeux pour lesquels il y aura des virtuoses qui joueront à ces jeux, et les gens viendront regarder ces virtuoses, c'est certainement une partie de l'avenir du jeu vidéo. Comme du temps où j'étais jeune, on faisait des concerts pour vendre les albums de musique. Maintenant, on fait des albums de musique pour vendre les concerts. Eh ben, à un moment donné, il y aura une partie. Alors, ça formera pas la totalité. Évidemment, on gardera pas des gens jouer à Candy Crush, je pense pas. Mais on aura fait des jeux vidéo qui seront la base d'un spectacle. Et l'e-sport se rapproche de cette idée-là. Et dans ce cas-là, effectivement, si je voulais me recycler, mais c'est trop tard. C'est plutôt en quelqu'un formé au spectacle vivant et à ses dérivés numériques qu'il faudrait que je me mette.
Parler, mais une des évolutions assez flagrantes, très récentes, c'est la spectacularisation du jeu vidéo, et pas seulement de l'e-sport, mais du jeu vidéo en général, avec des plateformes comme Twitch. Et en fait, c'est marrant parce que dans notre enquête aussi sur les pratiques de jeu, on avait on s'était dit, mais c'est vrai qu'en fait, le jeu vidéo, c'est un truc qui se regarde aussi. C'est pas seulement un truc auquel on joue. Donc, en allant voir des joueurs de jeux vidéo chez eux, ce qu'on a fait pas mal parce qu'on était avec des géographes, ils voulaient voir leur espèce domestique, etc. Et du coup, on voyait que, effectivement, et c'est rare, on les a filmés, c'est rare qu'ils jouent tout seuls quand le mari joue à un jeu vidéo, la femme est à côté, souvent ça se passe comme ça, sur sa tablette parfois en train de jouer à Candy Crush, et elle va commenter, elle va participer à la partie de jeu. Donc en fait, ce que révèle aujourd'hui Twitch, c'est quelque chose qui existait déjà, mais ce que fait Internet, c'est que ça rend visible des pratiques, et ça les modifie un peu, qui existaient déjà. C'est que le jeu vidéo, c'est aussi quelque chose qui se regarde. Mais effectivement, du coup, on se dit, ah bah, faut peut-être l'envisager, l'étudier comme un spectacle. Et je pense qu'il va y avoir un certain nombre de travaux sur la question dans les années qui viennent. Enfin, j'espère. On va s'arrêter là. Alors, du coup.
Merci Stéphane.
Merci.